Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de commémoration des fidèles défunts, le livre de la sagesse qui a ouvert notre méditation des saintes écritures nous a rassurés. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Les âmes des justes qui sont parvenus immédiatement après leur mort à la gloire du ciel, étaient l'objet de notre contemplation hier, au jour où nous avons célébré tous les saints, ceux de notre calendrier, les fils et filles de notre Église, tout comme les saints plus anonymes de nos familles, qui, dans l'anonymat, la simplicité, l'humilité, se sont efforcés de vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Si les âmes des justes sont dans la main de Dieu, que se passe-t-il pour les âmes injustes? Celles dont la vie n'a pas été ajustée à la volonté, à la loi, à l'amour de Dieu. Dans sa parabole, le bon berger nous dit qu'au dernier jour, lorsque nous paraîtrons face à Dieu, ou au dernier jour, lorsque l'ensemble du genre humain sera présenté à Dieu le Père, voilà que, pareil au berger, le Seigneur Jésus séparera les brebis des boucs. Ailleurs, dans l'Évangile, il nous dit qu'il séparera le bon grain de l'ivré, et que si, ici-bas, il n'ôte pas l'ivré de notre monde, et Dieu sait que l'ivré se propage, c'est pour ne pas que le bon grain en pâtisse. Deux alternatives, le feu éternel de ceux qui auront toujours refusé Dieu, son règne, à l'image du juge injuste dont nous avons médité la parabole il y a quelques dimanches. Il ne respectait pas Dieu, du coup, il ne respectait pas davantage les hommes. Et il y a, bien sûr, et c'est vers eux que nous sommes tournés en ces heures, les âmes qui, en purgatoire, attendent la pleine délivrance de leurs fautes. Voilà vers où se dirige notre prière aujourd'hui. Nous n'avons pas à prier pour les saints. Ils sont déjà dans la gloire de Dieu. Eux prient avec nous pour les fidèles défunts comme pour les épreuves que nous traversons ici-bas. Nous ne prions pas pour ceux qui sont en enfer. Il n'y a plus d'espérance. Ils sont privés de la vision de Dieu. Nous prions par contre avec les saints et toute la puissance de la prière de l'Église pour les âmes qui, en purgatoire, purgent une peine en vue d'obtenir la vie éternelle. Le purgatoire, c'est l'antichambre du ciel, le lieu de la purification. Considérez sa vie quelque instant. À de quoi nous faire trembler? Saint Paul nous le dit sans embâge dans son épître. Il y a le bien que je voudrais faire. Ah, et il y a ce mal que je fais sans toujours vraiment le vouloir. Le péché est bien présent en nous. Il nous faut donc demander au Seigneur, ici-bas, de nous aider à nous rapprocher chaque jour davantage de lui pour que notre cœur puisse finir par battre à l'unisson du ciel. Oui, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Mais aux yeux de l'insensé, du mécréant, de celui qui n'a pas la foi, ils sont morts, voilà tout. Leur départ, précise l'auteur du livre de la Sagesse, est compris comme un malheur, et leur éloignement définitif comme une fin de non-recevoir. Mais non, il ne s'agit pas là de l'espérance chrétienne. La mort n'a pas été voulue pour elle-même par le bon Dieu. La mort n'est que la conséquence du péché. Voilà où le péché nous mène, au règne de la mort. Et nous le voyons à notre époque. Alors que le bon Dieu nous dit qu'il est la résurrection et la vie, nous ne voulons plus que la vie soit au cœur de notre loi au cœur de notre civilisation. Les petits-enfants à naître dont on se débarrasse dans l'anonymat le plus complet, la fin de vie où maintenant, avec une petite piqûre, l'héritage tant attendu sera anticipé. Vous voyez combien notre monde ne choisit plus la vie, mais en se détournant de Dieu, préfère la mort, ses malices, sa confusion, sa destruction généralisée. Le bon Dieu nous invite à comprendre que la mort est la conséquence du péché et qu'il est venu sur le bois de la croix offrir sa vie en rançon pour la multitude de pécheurs que nous sommes, moi le premier. Oui, la mort n'a pas le dernier mot, parce que le Seigneur n'était pas un homme parmi tant d'autres en offrant sa vie sur le bois de la croix. Son humanité était l'instrument de sa divinité en tant qu'homme. Il a connu l'angoisse de la mort au jardin des Oliviers. En tant qu'homme, il a été broyé par la douleur et la souffrance, sur ces mots du prophète Isaïe, à qui a été donné de voir l'horreur de la passion. Il ne ressemblait même plus à un homme. Broyé par la souffrance, il était l'agneau muet que l'on conduisait à l'abattoir. Muet pour toutes les fois où nous la ramenons trop. Et le Seigneur, dans le mystère de sa mort, alors qu'il a rendu son souffle de vie, alors qu'il est dans l'obscurité du tombeau, descend aux enfers, non pas en enfer, aux enfers, c'est-à-dire dans ce lieu où l'on attendait que le Dieu Messie vienne ouvrir les portes du ciel et nous apporter l'espérance de la vie éternelle de ce royaume dont le Seigneur n'a cessé de nous parler en sa prédication. Oui, il est venu chercher les âmes de tous les justes, d'Adam et Ève, nos premiers parents dans la foi, de toutes ces générations, de tous ces peuples de différentes langues, races et nations au cours de l'histoire. Et alors, nous avons l'auteur du livre de la sagesse qui nous dit que le Seigneur jugera les nations, que le Seigneur finira par régner sur eux pour les siècles des siècles. Oui, même ceux qui n'ont pas connu explicitement la bonne nouvelle du salut ont été dotés par notre grand Dieu d'une conscience droite. Et la responsabilité du père, de la mère de famille, la responsabilité de l'éducation, la responsabilité de l'État est de faire en sorte que cette conscience soit toujours dirigée vers le bien. Et le bon Dieu, dans sa parabole, nous dit bien « J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais un étranger, j'étais malade ou en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. » Et beaucoup ont été très étonnés. Mais quand donc nous avons vu le Seigneur Jésus avoir faim, avoir soif, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, dans le ventre de sa mère, de ses plus petits, sur son lit de souffrance, dans la solitude de son EHPAD, chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que votre cœur est resté de pierre face aux souffrances des hommes, c'est à moi que vous l'avez fait. Le bon Dieu, vous l'aurez compris, nous invite à l'amour. Un amour qui s'enracine dans l'amour de Dieu. Oui, il nous faut prier pour unir notre âme à Dieu. Et plus nous aimons Dieu, plus notre cœur gonfle, enfle et est capable d'aimer. Est capable, par le regard de la foi, de reconnaître le crucifié à travers les souffrants de ce monde. Est capable de reconnaître dans les muets ceux qui n'ont pas la parole ou qui ne l'ont plus, le Seigneur souffrant lui-même, l'agneau de Dieu muet, conduit à l'abattoir. Voilà comment il nous faut nous gagner le ciel, en nous enracinant fermement dans l'amour de Dieu et en manifestant cet amour de Dieu à l'endroit du prochain. Cela n'est pas impossible. C'est certes plus difficile que l'individualisme, le chacun pour soi, etc. C'était en tous les cas ce qu'ont vécu nos aïeux dans la foi. En des temps aussi difficile, voire même plus difficile, où le confort n'était pas du tout celui que nous connaissons. Il savait venir en cette église, prier le Dieu d'amour et de vérité. En ces confessionnaux, demander le pardon de leurs péchés. Et ils ont toujours su en leur âme, par leur catéchisme, par leur assistance à la messe, par leur dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie et les saints de notre pays, qu'il y a au-dessus de leur tête ce ciel qui nous attend chacun. Alors que nous allons nous rendre au cimetière, que nous allons porter le souvenir ému de tous ceux qui nous ont précédés, nous rajouterons à ce devoir de mémoire celui de la prière. Oui, notre prière, nos sacrifices, nos souffrances, si nous les offrons pour leur libération, leur est grandement utile. Nous ne prions pas seulement pour nous, nous prions également pour eux, pour qu'ils puissent parvenir aux sources vives du salut. Et voilà ce que les parents et grands-parents ont à transmettre à leur enfant. Non seulement l'espérance chrétienne, mais également ces actes tout simples de dévotion où on va au cimetière parce qu'il faut parler de la mort. On va au cimetière, on nettoie les tombes avec eux, on les fleurit, on leur porte une lumière, une bougie pour témoigner de l'espérance chrétienne parce que c'est eux qui auront pour charge de prier pour nous lorsque nous ne serons plus là. Alors que nous sommes réunis en cette église, nous prions ardemment pour tous nos fidèles défunts, pour qu'ils reposent dans la paix. Et nous supplions également le bon Dieu pour cette vie que nous avons à poursuivre ici-bas, pour que le bon Dieu et la Vierge Marie fassent sentir en notre âme qu'il y a le ciel et que ne nous est pas promis le bonheur éphémère de ce monde, mais de l'autre, comme l'a dit la Vierge Immaculée à Sainte Bernadette. Puissions-nous donc prier les uns pour les autres, pour cette conversion qui nous concerne et pour leur éternel repos. Puissent nos défunts reposer dans la paix, ainsi soit-il.